VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Burundi, un chauffeur de bus tué et 9 personnes blessées. Tel est le bilan d'un attentat à la grenade en début de soirée hier dans le quartier de Moussaga à Bujumbura. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le maire de la capitale, Freddy Mbonimpa. Selon lui, la grenade a été lancée près de la gare routière du quartier qui est proche d'un commissariat de police. Les autorités ont ouvert une enquête. Moussaga, un bastion de l'opposition dans le sud de la capitale, est depuis avril 2015 à la pointe du mouvement de protestation contre la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat contesté et sa réélection en juillet de la même année. Au Lesotho, petit état enclavé dans l'Afrique du Sud, l'épouse de Thomas Babané, le récent vainqueur des élections législatives nationales, a été tué par balle mercredi soir. Selon une source policière, Lipolelo Tabané, 58 ans, en instance de divorce depuis des années avec M. Tabané, a été abattu alors qu'elle circulait en voiture dans le village de Hamasana, à environ 35 kilomètres au sud de la capitale Maseru. Cette attaque intervient alors que Thomas Tabané doit être investi demain vendredi à Maseru dans ses fonctions de Premier ministre à la tête d'un gouvernement de coalition. Cour pénale internationale de La Haye, l'ancien chef de guerre de la RDC Bosco Ntaganda a affirmé devant la Cour pénale avoir aidé à mettre fin au génocide rwandais de 1994. Il l'a dit hier en tant que premier témoin pour sa propre défense, près de 2 ans après l'ouverture de son procès devant la CPI. Jacques Aristide.
Celui qui était surnommé autrefois Terminator a déclaré qu'il était commandant d'un peloton à ce moment-là. « J'ai vu des horreurs », dit-il. « Je me rappelle quand on a mis fin au génocide rwandais, nos supérieurs avaient dit que nous les militaires devions tout faire pour que cela ne se répète plus en Afrique », a encore expliqué Bosco Ntaganda. Issu d'une famille tutsi de 6 enfants, il raconte que ses proches restés au Rwanda ont été exterminés lors du génocide. En septembre 2015, l'ancien chef rebelle avait plaidé non coupable à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés, dont meurtre, pillage, viol et esclavage sexuel commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, en RD Congo. Né en 1973 au Rwanda, Bosco Ntaganda avait d'abord fait ses armes avec le Front patriotique rwandais après avoir vécu dans les années 1980 dans le Masisi au Nord Kivu où vit une importante communauté rwandophone. D'après la procureure Fatou Bensouda, il était un des commandants les plus importants lors de violences entre Emma et l'Hindou qui avait fait près de 60 000 morts.
Les représentants de nombreux pays africains sont réunis cette semaine ici à Washington dans le cadre de l'AGOA. L'African Growth and Opportunity Act. C'est une législation américaine qui préconise entre autres l'expansion et l'approfondissement des relations commerciales et d'investissement avec l'Afrique subsaharienne. Pour en parler, John Lindon s'est entretenu avec Kom Hassan, le ministre centrafricain du commerce et de l'industrie.
Ça fait une très très bonne chose pour la Centrafrique d'être aujourd'hui parmi les pays éligibles à l'AGOA. Et vous vous rendez compte, le plaisir ou soit l'honneur que nous avions pour être là aujourd'hui parmi tous les pays du monde qui sont adhérés au processus de l'AGOA.
Alors, mais concrètement, qu'est-ce que la Centrafrique peut vendre aux États-Unis?
Nous sommes un pays énormément riche sur le plan agricole. Par exemple, il y a le café, il y a le cacao, il y a le coton et que sais-je encore. Et donc, sur ce plan, nous pouvons développer beaucoup de choses avec les États-Unis d'Amérique. Par exemple, dans la ville de Bambari, nous avons des artisans qui confectionnent des chaussures traditionnelles. Et ça, c'est aussi un exploit qu'on peut mettre à profit. Nous avons la culture, par exemple, les différentes sortes de cultures vivrières qu'on peut aussi exploiter avec les différentes entreprises.
S'il y a des Centrafricains qui sont intéressés, quelles sont les procédures à leur niveau?
Je pense que nous sommes le département le mieux indiqué, le département du commerce qui a cette relation directe avec le département du commerce américain. Et dans ce cas de figure, il va falloir que ces entrepreneurs ou soit les commerçants qui veulent s'intéresser à avoir une relation directe avec les entreprises américaines n'ont qu'à à nous saisir et nous allons faciliter cette voie, cette relation avec ces entreprises américaines.
Qu'est-ce qui vous a marqué depuis que vous êtes ici et que vous discutez avec les ressortissants des autres pays qui participent à ce programme?
Je suis fasciné. Je vous le dis que franchement, on est un peu en retard. Et là où nous sommes, je pense que le ministre conseiller Koba peut en témoigner. Nous avons avec lui rencontré beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui se sont intéressés énormément à notre pays. Et aujourd'hui, notre retour sur la scène internationale en matière commerciale va nous donner beaucoup d'opportunités. Et là, aujourd'hui, tel que tout à l'heure, nous avons fait quelques interventions sur les opportunités d'affaires en Centrafrique, j'avoue que beaucoup des investisseurs se sont intéressés. Et là, aujourd'hui, je pense que nul n'a besoin de douter de la richesse que la Centrafrique possède et que nous devons mettre ça à profit.
Comme à son ministre centrafricain du commerce et de l'industrie.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, l'opposition organise ce samedi à Abidjan une marche pour protester contre la situation politique fragilisée par les mutineries de soldats en mai. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le Front populaire ivoirien, dirigé par Pascal Affinguessan, appelle à une manifestation pacifique pour dénoncer les mutineries qui ont fragilisé l'autorité de l'État et ont porté un coup à la crédibilité des institutions. Ce parti estime que le pays ne dispose pas d'une armée républicaine, mais plutôt d'une milice composée d'ex-combattants. L'ancien premier ministre Pascal Affinguessan déplore aussi une justice aux ordres et la caporalisation de l'administration et des médias d'État. Le FPI, créé par Laurent Gbagbo, traverse une crise. Pascal Affinguessan est contesté par Abdourahmane Sangaré, fidèle parmi les fidèles de l'ex-président ivoirien, toujours détenu par la CPI à la Haye.
Corne de l'Afrique, en Somalie, au moins 18 personnes ont été tuées lors de l'attaque de deux restaurants de la capitale Mogadiscio par un commando de 6 militants islamistes Shebab. L'attaque a débuté mercredi soir par l'explosion d'un véhicule piégé conduit par un kamikaze. Selon les autorités, la contre-attaque des forces de sécurité est maintenant terminée. Les assaillants ont été tués, a affirmé le porte-parole du ministère de la Sécurité, Mohamed Ahmed Arab. Au Maroc, le gouvernement sévit contre le mouvement de contestation qui secoue le nord du pays. La justice marocaine a condamné hier à 18 mois de prison ferme 25 membres de ce mouvement particulièrement actif à Al-Oseima dans la région du Rif. Éric Manirakiza.
Le verdict est tombé hier en fin d'après-midi. Selon l'avocat de la défense, maître Mohamed Ziane, cette triste décision symbolise un refus patent de tout dialogue et va encore alimenter un peu plus la contestation. Pour lui, ce n'est pas du tout la bonne voie pour sortir de la situation. À la barre des accusés pour atteinte à la sécurité intérieure, ils étaient 32 jeunes, âgés de 18 à 25 ans. Ils ont été tous arrêtés il y a plus de deux semaines, lors de heurts, dans la ville d'Al-Olseima. Sept d'entre eux ont comparu libres et ont été condamnés à des peines avec sursis et des amendes. Plus de 80 personnes ont été arrêtées, dont le leader de la contestation Nasser Zefsafi, qui a été transféré à Casablanca en attendant son jugement. La ville d'Al-Oseima est secouée depuis octobre par une grogne populaire pour dénoncer la marginalisation de la région septentrionale du Rif.
Et pour terminer, actualité américaine, ici à Washington, le député républicain Steve Scalise, blessé par balle hier, est dans un état critique après chirurgie et pourrait subir d'autres opérations. C'est ce qu'annonce l'hôpital de la capitale américaine où il est traité, Jean-Roger Bion.
Le numéro 3 de la Chambre des représentants a été blessé à Alexandrie, en Virginie, dans la banlieue de Washington, en même temps qu'un agent de police, un assistant parlementaire et un lobbyiste. L'assaillant, armé d'un fusil et d'un pistolet, a ouvert le feu sur un groupe de parlementaires américains qui s'entraînaient hier à Alexandrie, en Virginie, en vue d'un match caritatif de baseball ce jeudi. Le tueur, un certain James Hodgkinson, âgé de 66 ans, blessé dans une fusillade avec la police, a succombé à ses blessures. On ignore pour le moment le mobile de son crime, mais le FBI vérifie ses contacts ainsi que ses écrits sur les médias sociaux où il vouait aux gémonies le président républicain Donald Trump. Selon le député Jeff Duncan, Hodgkinson l'avait abordé avant de lui demander si les parlementaires qui s'entraînaient étaient républicains ou démocrates. Le suspect était un des bénévoles de la campagne du sénateur Bernie Sanders, qui s'est dit révolté par cet acte abject.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.